Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ses 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lion d'Or et découvrez 3 artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouvertes, une présentation de Sirius XM.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres what the fuck se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine. Venez vivre avant de mourir. Le tout est accompagné du house band The Firing Squad. 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant. Le Théâtre Sainte-Catherine est situé au 264 Sainte-Catherine-S, à 2 pas du métro Berry-UQAM. Les portes ouvrent à 19h30, show 20h.
Art Machine.
Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca.
Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. C'est pour ça que ça bouge comme ça.
Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode 165 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et aujourd'hui, on s'attaque à un monument, donc un monument du jeu vidéo qui a débuté, si je me trompe pas, en 1987 et c'est la série Metal Gear qui comprend plusieurs opus, dont les deux premiers jeux Metal Gear, les Metal Gear Solid et le dernier opus qui est sorti l'automne dernier, Metal Gear Survive. Et aujourd'hui en onde, j'ai une belle équipe qui est composée d'anciens de Pop en Stock, de nouveaux de Pop en Stock et aussi d'une popeuse qui nous fait son baptême aujourd'hui. Donc, je vais commencer par toi, Juliane Castonguay. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est ta première fois ici à Pop en Stock. Et comment te sens-tu aujourd'hui?
Je pense que ça va bien aller.
Oui, tu penses?
Non, je pense.
Moi, j'ai confiance parce que, en fait, je pourrais pas dire nécessairement une experte du sujet d'aujourd'hui, mais on était très bien placée pour en parler parce que tu fais ta maîtrise ici à l'UQAM en littérature sous la direction de Bertrand Gervais sur les jeux vidéo et oui. Plus particulièrement sur l'intelligence artificielle.
Oui, donc comme il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans Metal Gear, je pense que ça, je devrais réussir à faire des liens pertinents.
Oui, t'es à ta place. Avec nous aussi en studio, j'ai aussi André-Philippe Lapointe, donc ça fait plusieurs fois que tu viens récemment et c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous, donc Comment vas-tu, André-Philippe?
Merci, Mégane. Oui, j'y prends goût, apparemment. Je me sentais vraiment très bien, très excité de parler de cette série-là, qui est une de mes séries préférées, tout médium confondu.
Est-ce que tu as joué à tous les jeux à date ou pas?
Si on exclut le dernier, Survive, et des spin-offs, les Acides, qui sont des jeux plus cartes stratégie, des choses comme ça, oui, j'ai joué à tous les jeux.
Bon, mais c'est aussi toi qui avais suggéré donc de faire le sujet aujourd'hui, et tu nous as organisé ça d'une main de maître. Vraiment, merci beaucoup, et j'ai vraiment hâte de faire l'émission avec toi aujourd'hui. Et en studio aussi, on a Guillaume Couture.
Oui, salut.
Salut, ça va bien, Guillaume?
Ben oui, moi j'étais en retraite en Arctique en train d'élever des chiens de course, là. Vous m'avez sorti pour cette dernière mission à Papa en stock.
Ça t'a ramené à tes racines, sortir un peu de l'élevage.
Absolument, donc petite référence à Metal Gear pour ceux qui ne le savent pas encore.
Moi je ne savais pas, parce que je connais absolument rien. Donc c'est ça, moi je suis vraiment ici en novice et c'est vous ainsi que Régis Pierre-Fieux qui est avec nous en studio. Bonjour Régis.
Salut.
Donc ça va bien?
Ben oui, très bien, oui. Ça fait plaisir d'être avec une si bonne équipe. André-Philippe est très très motivant, très très motivé.
Oui! Oh,
ouais. Ça aide, j'avais peur un peu d'être fatigué parce que c'est vraiment une passion.
Non mais c'est très stimulant de devoir foisonner d'idées comme ça et sans plus tarder, parce que moi je suis une novice, j'ai joué à aucun des opus, donc vous êtes les experts dans la salle. Et on peut commencer justement par une présentation du jeu, mais aussi de son importance parce que je me souviens plus qui me le disait avant d'entrer en studio, c'est quand même un jeu pilier dans la popularisation des jeux de stealth, donc d'espionnage, je sais pas comment on l'appelle en français. Là.
Oui, j'avais demandé à André-Philippe, mais est-ce que c'est le fondateur du genre?
Ben, c'est toujours dur de dire le fondateur, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va trouver un petit exemple de nom. Il y avait ce petit passage-là, c'est comme quand on parle du roman policier, il y en a qui disent que déjà avec Zadig de Voltaire, on avait déjà un peu de schéma de roman policier. Donc on trouve toujours des petits segments, mais généralement, oui, c'est considéré comme le premier, celui qui est sorti sur MSX2, le Metal Gear, qui n'était pas encore solide.
Ouais, c'est en fait ensuite il y a eu quand même une postérité, donc ça s'est popularisé à partir de ça, mais aussi la série s'est développée, je sais pas il y a combien de jeux exactement, mais c'est assez énorme là. J'ai regardé un peu avant de venir, puis une page Wikipédia dédiée au complet à comptabiliser tous les jeux qui sont sortis, et ça a fait une histoire assez foisonnante là.
Tout à fait. Ben, je pense qu'une des raisons pour laquelle la série était aussi populaire dès le début, il y avait des moments où le joueur était directement surpris. Autant en tant que jeu d'infiltration, tu dois surprendre les différents ennemis, essayer de pas te faire voir jusqu'au dernier moment. Autant la série de jeux et Kojima, qui est son auteur, joue énormément là-dessus, sur ce bris du quatrième mur là, sur ces surprises. Dès le premier jeu, en fait, celui qui nous donne nos instructions, Big Boss, se révèle le boss du jeu, un ennemi qui nous envoie souvent dans des pièces où on risque de se faire tuer.
OK. Pour se mettre en contexte, d'abord, avant tout, pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout, comme moi, en fait, j'ai regardé la vidéo que tu nous avais envoyée qui résume un peu l'histoire, mais donc c'est un jeu qui prend place durant la guerre froide.
Ce qui est assez compliqué avec la Sega Metal Gear et qui ne rend vraiment pas simple pour ceux qui essaient de s'intéresser à l'histoire globale, c'est que, un peu comme, mettons, Star Wars, ça n'a pas été fait dans l'ordre. Ça commence à peu près dans les années 90 et après ça, on a petit à petit des épisodes qui vont soit dans le futur, soit dans le passé et qui vont toujours donner des révélations. Je vais plus le traiter à la fin de l'émission quand on va d'abord parler de plusieurs éléments importants, mais chaque jeu réussit à réécrire entièrement l'histoire de sa franchise, de permettre aux joueurs de revoir la franchise sur un regard complètement différent, avec des vrais twists finales assez impressionnants.
Mais je pense que c'est une des rares, peut-être pas nécessairement une des rares, mais c'est une série où est-ce qu'il faut pas essayer de prendre, de voir ça de manière linéaire, parce que on va se perdre de toute façon. C'est toujours écrit sur cinq jeux principaux plus les Metal Gear avant Solid plus des choses qui vont à côté comme Metal Gear Rising Revengeance par exemple. Puis faut pas essayer de suivre un fil narratif dans tout ça, on y arrivera juste pas, il y a trop de matériel, il y a trop de... ça varie trop entre les jeux.
Ouais, il faut considérer aussi le, ben, parce que j'hésite à rentrer trop dans n'importe quel sujet parce que je sais pas par quel angle on va attaquer tout ça, mais c'est que Kojima a été pendant plusieurs années un peu prisonnier de sa franchise, a forcé à sortir des suites ou à la demande de la compagnie, et par conséquent chaque opus qu'il a créé, il croyait que ce soit le dernier, et donc il fallait constamment rajouter des pierres à l'édifice. L'édifice devient non euclidien à un moment donné.
c'est le craft, quoi.
Non, c'est ça. Il y a ce côté-là, effectivement, très drôle, où à chaque fois que Kojima sortait un Metal Gear, il disait « Bon, celui-là, c'est vraiment le dernier. » Et ça était de moins en moins crédible, étant donné qu'il avait dit des Metal Gear Solid 1, et il disait encore un Metal Gear Solid 5, et il y a plusieurs épisodes entre qui sont pas les épisodes principaux de la série, comme par exemple Peace Walker, qui est sorti sur PSP, qui est un très bon épisode, très important pour bien comprendre les personnages de Metal Gear Solid 5. Ça introduit beaucoup de ce qu'il va avoir par la suite. Mais il y a vraiment ce côté-là. Chaque œuvre était censé pouvoir finir la série, et là, ben, étant donné que les fans veulent énormément un autre jeu, parce qu'ils ont à chaque fois raffolé du nouveau, ben, Kojima retourne dans son histoire et voit comment il peut rejouer avec tous ses matériaux préexistants.
Concernant l'origine, on est quand même sur un jeu qui recycle des peurs japonaises, notamment le nucléaire, puisque oui, le Metal Gear est une machine qui envoie des missiles nucléaires, en fait, qui a une portée intercontinentale, si je me souviens bien. Et le but, en fait, à l'origine, c'est que tu dois détruire le Metal Gear, et ça joue sur cette peur du nucléaire qui est là depuis Hiroshima au Japon. Ça, plus toutes les références cinématographiques de Kojima que tu connais certainement mieux que moi, notamment le fameux bandeau de Snake dans le 1. Ouais, bien sûr. Qui disait que c'était Rambo, il y en a d'autres qui disaient c'est comment il s'appelle, le film de Michael Cimino.
Oui, j'ai le nom pas très loin normalement, si j'arrive à le retrouver. Ok, Snake. Dans New York, oui. 1997.
Ah, ok, je crois que ça venait du film de Michael Cimino. Comment il s'appelle, Voyage au bout de. Vous savez, avec Robert De Niro et.
Oh, ben ça se peut que ça vienne de plusieurs choses. Okay, quand tu regardes les influences de Kojima, c'est très dur de toutes les connaître. Il y en a qui font des vidéos YouTube où ils parlent des dizaines de minutes sur les influences par épisode. Il y en a vraiment beaucoup, c'est très foisonnant.
Mais c'est ça, c'est mon point, c'était surtout sur cette espèce d'origine. La concrète du jeu, là, voilà, t'es un espion qui doit trouver une machine qui est capable d'envoyer des missiles nucléaires. Donc ça joue vraiment sur cette peur primordiale des Japonais pour le nucléaire.
Tout à fait. Et plus globalement, la série est très pacifique. Très tôt, il y a énormément de thèmes qui vont être abordés, des thèmes très matures qu'on n'a pas nécessairement habitué de voir dans les jeux vidéo, notamment le phénomène des enfants soldats, des Metal Gear Solid 2. Il y a cette idée-là avec notamment des personnages qu'on apprend que son nom était Jack, et un des personnages va jouer sur son passé obscur d'enfant soldat en l'appelant Jack the Ripper, Jack l'Éventreur. Donc il y a ce jeu-là d'un peu de machine à tuer, ce qui est aussi, d'une certaine manière, ce que le joueur fait normalement dans la plupart des jeux Metal Gear. Bon, il y a toujours l'option, étant donné que c'est un jeu d'infiltration, on est tranquillisé, on peut endormir les différents soldats, mais généralement ça va beaucoup plus vite de les tuer, ou en situation de panique il arrive qu'on sorte notre mitraillette, donc on se ramasse à avoir énormément de fantômes derrière nous, et la série ne cesse de nous le rappeler.
Mais ça justement dans Metal Gear 3, qui est un prologue à la série, à un moment donné il y a un boss que c'est littéralement tous les personnages que t'as tués au cours de ta partie qui vont revenir te hanter. Puis pour réussir à battre ce boss-là, il faut se laisser tuer. En fait, faut se laisser posséder par ses propres démons. Puis c'est comme ça que ça permet à l'histoire de continuer. Puis je trouve ça assez intéressant.
Ça, c'est du Kojima, tout
à fait. Oui, tout à fait. Le boss, c'est The Sorrow, qui est un personnage mort dès le début. C'est un personnage vraiment surnaturel. Et pour moi, c'est déjà le prélude des jeux comme Undertale, qui vont vraiment jouer sur la question du choix narratif. Sur, en fond, est-ce que tu veux vraiment tuer tes adversaires, ou tu veux plutôt interagir avec pour arriver à créer une sociabilisation? Vas-y, Julien.
Mais en même temps, il y a une différence fondamentale entre Undertale et Metal Gear Solid, du fait que tu ne deviens pas vraiment ami-ami avec les, les soldats anonymes que tu endors ou tues dans une partie de Metal Gear.
Non, tu as fait raison, mais tu peux quand même ne pas les tuer, tu peux quand même développer un regard plus humain, juste aller directement vers ta quête, en rendant le jeu plus dur, mais en vraiment faisant attention aux différents personnages, parce que eux, c'est pas de leur faute. Ça va être un thème très rapide dans la série. La plupart des personnages sont pas trop au courant de ce qu'ils font. Nous-mêmes, en tant que joueurs, étant donné qu'on suit souvent les ordres de différentes organisations, on se rend rapidement compte qu'on est pas nécessairement du bon côté. C'est quelque chose que déjà Final Fantasy 4 ou 6 jouait. On se rend rapidement compte qu'on est peut-être même du mauvais côté, que mettons, quand on obéit aux ordres des États-Unis, qui sont de plus en plus vers une centralisation de l'information, une censure absolue. On n'est clairement pas nécessairement du bon côté. D'ailleurs, à la fin du premier Metal Gear, Solid Snake, le personnage principal, et Otacon, un des personnages qu'il rencontre, qui est celui qui a principalement participé à la création du Metal Gear. Ils fondent une organisation philanthropique où le but est de pacifier la Terre et d'empêcher ce genre d'arme-là d'exister.
Mais je pense que on tourne autour de ce mot-là, mais Metal Gear, c'est dans son ADN, c'est la subversion. Oui. Subversion des attentes du joueur, à savoir qu'avant Metal Gear 1, même avant le premier, dans les jeux vidéo, on tuait tout ce qui bougeait, c'était l'objectif de base pour faire monter le score. Alors tout d'un coup, on se fait présenter un jeu où on est avantagé de ne tuer personne. Et éventuellement, on fait la subversion des attentes du joueur dans d'autres manières, comme on interprète quelqu'un, tu le disais, qui ne sait pas exactement quels sont les vrais objectifs, est-ce qu'on peut divulgâcher des détails... Solid Snake est atteint du virus Fox Die. Ouais. Et contre son gré, va tuer des gens à son simple contact, sans même le savoir. Exactement. Et éventuellement, on va subvertir des mécaniques de jeu, tout simplement. Nombre de fois, ça arrive souvent dans le jeu, il faut mourir pour, en fait, ne pas mourir. Ou The End, entre autres, un boss dans Metal Gear Solid 3, qui est un vieillard, un tireur d'élite vieillard, qu'on peut tuer en allant dans sa console PlayStation, modifiant l'heure, ou en attendant. Si on attend deux semaines, puis qu'on joue pas, puis qu'on revient au jeu, il sera mort de vieillesse. C'est ce genre de choses-là qu'on ne voit jamais dans les jeux vidéo. Et s'il y a des gens qui connaissent pas la série, qui se demandent pourquoi on est en train de fangasmer sur Metal Gear, il faut comprendre que ce sont des jeux qui ne font que ça. Qui ont des idées complètement déjantées, quatrième mur et tout, là.
Non, c'est ça. Il y a vraiment un souci du détail qui va faire que, non seulement on va pouvoir faire des interactions, mais aussi il va nécessairement avoir le codec. Différents personnages qui vont nous appeler à travers cette sorte... comment vous définissez le codec? C'est une sorte de...
C'est comme un walkie-talkie dans ton oreille.
Exactement.
C'est un Bluetooth avant Bluetooth.
Que le monde ne voit pas et qui permet d'avoir des discussions avec les différents personnages, de pouvoir s'attacher aussi avec les personnages. Juste avant qu'on aille trop loin, on a déjà beaucoup analysé la série, ce qui est super, mais juste donner quelques informations, quelques statistiques très rapides à propos de la série. Premièrement, elle a gagné un record Guinness, celle du plus grande innovation sur un contrôle de jeu vidéo en 2008 par rapport à la fameuse série de Psychomantis que je veux pas qu'on aborde tout de suite, mais qu'on abordera inévitablement parce que c'est probablement la scène la plus connue du jeu vidéo. Ensuite, en 2010, PC Magazine plaçait le jeu 7e niveau influence dans l'histoire des jeux vidéo, notamment pour l'influence
la
de la série.
La série ou un des opus en particulier?
C'était Metal Gear Solid, le premier. C'est généralement lui qui est le plus représenté, étant donné qu'il a vraiment fait quelque chose qui va être par la suite sans arrêt réutilisé, réaménagé. Ensuite, en 2012, le Time Magazine place le jeu Metal Gear Solid dans la liste des 100 jeux les plus importants de l'histoire. Également, Metal Gear Solid et également Metal Gear Solid 2, pour cette fois-ci, vont avoir fait partie de l'exposition au Smithsonian American Art Museum durant l'exposition qui était consacrée à l'art dans les jeux vidéo. Une manière, ce qui faisait beaucoup de débat, est-ce que les jeux vidéo peuvent être artistiques. On a clairement un exemple où c'est le cas. Et finalement, Eurogamer établissait que, selon eux, ce commentaire-là était fait en 2012, juste pour dire, parce que c'est quand même assez récent en absolu, considéré comme le premier jeu vidéo moderne. Donc, une sorte de Donkey Shot des jeux vidéo. Ce que je serais assez d'accord quand même, vu son niveau de réflexivité du médium, peu de jeux nous donnent l'impression qu'on est en train de jouer à un jeu vidéo pendant qu'on le fait. C'est le cas notamment avec Metal Gear Solid 2, on en parlera aussi, mais il y a un moment où le jeu te dit littéralement « Éteins ta console, arrête de jouer, t'es trop près de l'écran, tu perds ton temps pourrait être mieux investi. »
Et il y a ce genre... C'est plus post-moderne que moderne, alors presque comme
ouais,
ça.
Oui, oui.
Excellent.
Définitivement.
Ouais. Mais c'est ça, toutes les mécaniques de jeu, et c'est pas juste dans la narration, c'est vraiment dans la mécanique qui te pointe à... qui te force un peu à repenser ta manière dont tu joues à des jeux vidéo en général, puis c'est comme ça depuis le début de la franchise. Exactement. Mais est-ce que c'est encore le cas dans les opus plus récents, ou ça s'est transformé un peu plus en d'autres choses?
Ben, c'était récent jusqu'au tout dernier Metal Gear Solid 5, avant que sorte Survive, dont on pourrait parler effectivement brièvement. Mm-hmm. Je pense que personne ici y a joué.
Non, mais bon, quand même beaucoup de vidéos et de tests vus.
Oui. Exactement. Est-ce que quelqu'un veut commencer, donner son opinion?
Je pense que si je dois en parler personnellement, ça va vraiment être sur le côté marketing, vraiment, parce que le reproche principal des joueurs, c'est que ça devrait pas s'appeler Metal Gear, en fait, et à juste titre, je pense.
Je suis assez d'accord.
Parce qu'ils ont juste repris le design et le gameplay du 5, et ils ont fait des zombies avec.
Et c'est qui est très populaire, les zombies.
Voilà, c'est ça, mais d'un autre côté, c'est populaire, mais c'est un peu dépassé aussi, je trouve.
Oui.
ça sent vraiment la reprise de marque catastrophique. Et j'ai vu quelques vidéos, je me dis, c'est pas trop mal fait, mais en même temps, ils se sont pas foulés, ils ont vraiment repris le 5. Ils ont mis des zombies. Ils ont mis un aspect gestion qui est apparemment assez intéressant, mais je comprends pas trop, vraiment. Je comprends pas. Encore Metal Gear, on en parlait, Rising, qui était un beat'em all que j'avais fait, qui est vraiment excellent.
Oui, il était assez
d'accord,
bien.
Mais là, Survive, je comprends pas du tout.
Mais il y a toute la question qui est très importante de l'auteur, qui est rarement importante en jeu vidéo. Donc, toute la franchise tourne autour vraiment de Hideo Kojima, mais là, il n'est pas participé à la production de Metal Gear Survive, si je me trompe pas. Hein.
Non, exactement. On sait pas exactement comment il a quitté Konami, okay. Mais c'est vraiment en claquant la porte. C'est vraiment un gros mésentente. Ça fait un sort de mythe. On sait pas exactement ce qui s'est passé. Il travaillait sur un gros projet, Silent Hill, qui avait vraiment été très populaire.
Ouais.
C'était quel... c'est ça, avec Del Toro. Donc, quelque chose qui avait vraiment enflammé l'imaginaire. Mais c'est ça, finalement, ça aboutira pas. Et pour les joueurs, la série Metal Gear Solid est vraiment directement liée à Kojima. Comme tu disais, il n'y a pas beaucoup d'auteurs dans les jeux vidéo aussi connus, mm-hmm. qui ont aussi une part artistique. Et, enfin, ça a été très mal perçu, surtout en plus que le jeu... et semble pas particulièrement bon, particulièrement développé, comme pouvait l'être la série. Déjà, s'il y avait eu un certain effort de la part de Konami, ça aurait vraiment mieux passé.
Mais je trouve ça intéressant parce que Kojima dit toujours que c'est son dernier Metal Gear depuis, oui. Depuis le 1. Mais si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je me trompe, c'est pas qu'il voulait que la série Metal Gear se termine, c'est que lui voulait personnellement travailler sur autre chose. Là, maintenant qu'il est plus là, ben...
Il a pu commencer à le faire. Non, d'ailleurs, ça. Le projet qu'il est en train de faire, là, Death Stranding,
oui,
récolte un espèce de fanatisme de la part des joueurs, ce qui montre bien que le créateur est presque supérieur à l'œuvre, parce que j'ai pas l'impression que grand monde s'intéresse à Metal Gear Survive, mais dès qu'il y a un trailer de Death Stranding, c'est sur YouTube, il y a des vues hallucinantes.
Mais justement, Kojima, c'est un des rares, c'est d'ailleurs un des rares producteurs de jeux vidéo dont on se souvient du nom facilement. Ça, je vous demande qui a créé Mario. Ça va prendre quelques secondes quand même.
Moi, j'ai un problème avec les noms japonais. J'ai retenu très
bien. C'est la retenue, effectivement. Ça, c'est le problème.
Puis je pense que Kojima, puis justement, il y a cette réflexion là qui est probablement un peu auto-référentielle dans. Dans Metal Gear, on parle beaucoup du... On amène Snake comme étant un... Tout le monde dit que Snake est un héros, c'est une légende vivante. Puis lui, il est là... Il refuse un peu ce statut-là. Puis en même temps, Kojima a lui-même ce statut de légende-là, tout en essayant justement de s'éloigner.
Ouais, c'est son alter ego, ouais.
Mais voilà. Ouais, l'alter ego de l'auteur dans le jeu, c'est ça que tu veux dire?
Ah, littéralement. Dans Metal Gear 5, il y a une mission de sauvetage où, je sais pas si c'est annoncé au début de la mission, mais quand on arrive devant le prisonnier, c'est Kojima qui s'est digitalisé, qui s'est injecté dans le jeu.
Ah,
et là, est-ce qu'on lit dans le sens de il voulait sortir du studio à ce moment-là, durant le développement, sauvez-le.
Mais en même temps, il me semble qu'il y a des caméos dans toute la série à Kojima, je sais, bonne mémoire.
Probablement.
Il me semble
des références, en tout cas, tout
c'est ça. Ça peut être très discret, mais il me semble que j'avais vu... Je ne les ai pas remarqués moi-même en jouant, mais apparemment, il y en avait dans le jeu.
Dans le 1, il y en a un, ça j'en suis sûr, mais après, je ne sais pas.
En tout cas, ça a été mon premier contact avec le concept d'auteur dans le monde des jeux vidéo, clairement. Je ne sais pas si c'est le premier. Encore une fois, c'est un débat pour les âges, bon, là, mais clairement, Kojima voulait avoir son nom attaché au produit. Et puis, même avant, à l'époque des jeux d'Atari, où il y avait une seule personne qui codait le jeu, souvent, cette personne-là passait inaperçu. Passait comme un peu dans l'ombre, là. Mais Kojima injectait son nom de force un peu dans les... Genre, le jeu s'ouvre sur un générique de film, chose qui, moi, m'avait complètement étonné dans Metal Gear 1. Hein? Et il y a son nom, évidemment, partout dans le générique. Donc, on voulait nous le forcer dans la gorge, puis ça nous est resté dans la tête, et on l'aime, Kojima, un peu.
Mais je pense que le seul autre nom... Qui est aussi présent dans
oui,
le...
Mario, alors on n'a pas la réponse.
Non, mais j'ai pas la réponse non plus.
Le
non,
concepteur moi, est quand même Miyamoto, là. Je veux dire, même si c'est pas le producteur, son développeur, c'est quand même Miyamoto. Je veux dire, il y a quand même un nom attaché à Mario Zelda et tout. C'est probablement l'autre grande figure d'ailleurs, à part Kojima.
Mais moi, je pensais plutôt à Sid Meier's Civilization, qui va pour toujours être accroché même dans le titre de ses jeux.
Ça, c'était brillant de sa part.
C'est toujours Sid Meier, quelque chose.
Sid Meier, American McGee aussi. Pour les Alice, Ça peut être... Ok, je tombe sur un mur, là.
Non,
là,
je ne connais pas du tout, c'est intéressant.
Le jeu s'appelle, au lieu de... C'était Alice au Pays des Merveilles, adapté de manière un peu tordue. Oui. Et puis, pour éviter la confusion avec Alice, le produit de base, c'est American McGee's Alice 1 et 2. Donc, c'est comme le nom du jeu pour... Afin de le distinguer, il injecte son propre nom. En tout cas, je vous laisse... Je vous laisse être juge de ça.
On va dériver si. Faut qu'on fasse attention.
Non, mais en même temps.
André Philippe, guide-nous.
Ben, vous dites tellement des choses intéressantes, c'est d'autres, etc. Il faut dire que les premiers jeux qu'il avait fait sur MSX n'étaient pas des jeux qui avaient été très connus. Donc, jusqu'à date, ça ne dérangeait pas d'en faire. Il y avait comme un peu. Il était un peu triste, en fait, que le deuxième, qui avait énormément de très bonnes idées, des trucs comme, par exemple, écrire une fréquence de codec sur le boîtier du jeu, et c'est la seule place où on peut trouver la fréquence de codec, faut vraiment regarder sur le boîtier du jeu, ce genre de choses-là, était déjà dans son jeu sur MSX, mais personne n'y avait joué, parce qu'à peu près personne n'avait de MSX. C'est pas une console très connue en absolu, il y a juste d'autres jeux de lui, comme Snatcher, qui sont encore connus aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il a fait Metal Gear Solid 1 sur PlayStation, qui a été un très gros blockbuster à l'époque, très annoncé, très attendu, et il est resté beaucoup d'idées de Metal Gear 2 dans son projet. Mais après ça, pour lui, il avait fini sa grande œuvre, c'était Metal Gear 2, qui avait vraiment recyclé dans Metal Gear Solid sur PlayStation. Donc il voulait passer dans le fond la balle à son équipe. C'est pour ça que quand il fait Metal Gear Solid 2, il change entièrement de perspective. Et ça, ça l'a d'ailleurs énormément choqué. Il y avait une très grande campagne publicitaire. À l'époque, c'était un des jeux les plus attendus de la console. Mais durant toutes les bandes-annonces qu'on voyait, toute la présentation qui était faite, on était convaincus qu'on allait jouer le même personnage qu'on avait joué jusqu'à date dans les jeux sur MSX2 et dans Metal Gear Solid. C'est comme ça que le jeu commence. On incarne Solid Snake, qui est le grand héros, mais après à peu près un cinquième, un quart du jeu, on se ramasse avec Raiden, et c'est vraiment la sensation qu'on a comme joueur. On se ramasse avec ça, on n'est pas tellement content parce que ça représente pas le soldat parfait, ça représente vraiment une nouvelle vision du monde qui était aussi pour Kojima l'idée de passer à une nouvelle génération à travers son protagoniste. Lui-même s'est souvent vu comme Solid Snake, et là c'était vraiment de mettre quelqu'un d'autre avec des nouvelles idées, avec des nouveaux studios. Il y avait aussi quelque chose d'assez bien à l'époque du développement de Metal Gear Solid 2, il y avait ce qui est appelé une boîte à idées. À chaque fin de journée, tous les employés, du plus simple au grand game developer, devaient insérer dans la boîte à idées une idée, et à chaque fin de journée, Kojima regardait toutes les idées de ses employés. Et il y a certaines de ces idées-là qui ont été réutilisées par la suite.
Alors, est-ce que c'est là que vient son idée aberrante? C'était pour quel épisode? Il voulait que, à chaque fois qu'il y avait un game over, le joueur rachète le jeu, sinon le jeu se bloquait. Il y avait pensé, mais je sais plus pour lequel c'est, le 2 ou le 3 je crois, et, mais pour un tarif modéré, mais bon quand même c'est vraiment
c'est
tordu,
vraiment
ça montre à quel point Kojima va loin quand il veut briser le quatrième mur en fait.
C'est très Kojima effectivement. Une manière, j'imagine que Konami il met certaines barrières, puis dans certains cas ça me paraît quand même bien, l'idée de racheter le jeu à chaque fois n'aurait pas nécessairement été très populaire auprès des joueurs.
Ouais, carrément.
En temps, EA fait ça.
C'est ça, genre,
non,
ça
mais même
populaire,
dans Metal Gear Survive, il faut que t'achètes tes save files.
Tout à fait.
T'en as une de base, puis si tu veux plus de parties, eh ben il faut que t'en achètes. Wow.
Et ben voilà, quand je disais que c'était du marketing.
Non, c'est ça.
Je pense que
le jeu c'est vraiment tiré dans les pieds. Non seulement il y a pas Kojima, mais il y a des principes de microtransactions abusives. Ouais. Il y a une histoire pas très développée, alors que c'est la force depuis le début. Il y a peu de jeux vidéo qui égalent Metal Gear, à part peut-être dans les RPG, sauf des jeux très très récents ou très indépendants. Mais il faut dire aussi que le Metal Gear, dès le début, c'est des gros blockbusters. Ça a toujours eu ce côté-là, à la fois qu'on retrouverait blockbuster et film d'auteur dans une même œuvre.
Ça vient de sa passion pour le cinéma, totalement.
Tout à fait, oui.
Le côté cinématique qu'il a d'ailleurs poussé trop loin dans le 4, ça vient de sa passion pour le cinéma. Oh, oui, mais le 4, c'est...
Non, donc, moi, j'ai pas joué au 4.
Tu joueras pas plus, il y a trop de cinématiques.
Non, c'est un peu ça. Mais je suis allée voir sur Internet, j'ai regardé des gens jouer, j'ai trouvé une vidéo de quelqu'un qui jouait dans son entièreté un stealth 100 kills, 11 heures. Un vidéo uniquement les cinématiques 8 heures.
Wow. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais il faut quand même dire que quand t'as fini à peu près le jeu, je pense qu'il reste à peu près 2 heures de cinématique à regarder d'affilée. Le 3 avait déjà un peu joué là-dessus. La dernière séquence où t'as juste des boss à affronter à peu près et des cinématiques, je pense que c'est à peu près 2 heures.
Alors, est-ce qu'on n'est pas sur un fantasme de Kojima de « Tiens, j'aurais aimé faire du cinéma. »
Oh, ben, je pense que c'est clair que... pour lui, c'est pas ce qu'il voulait faire. D'une certaine manière, c'est bien parce que par moment, les artistes frustrés font des meilleures œuvres parce qu'ils sont sans arrêt dans essayer de faire ce qu'ils ont jamais réussi à faire et ils sont très créatifs, très imaginatifs.
Tu es en train de dire que le 4 est la meilleure œuvre, c'est ça?
Je suis en train de dire que le 4 a ses qualités malgré tout. C'est peut-être l'œuvre qui est la plus Kojima en, dans tous les sens du terme. Autant le meilleur que le moins
trop
bon.
Trop mégalo, peut-être, parfois.
Ben, il y a ce côté-là aussi. Je pense qu'il a développé une relation amour-haine avec sa propre série. Sans arrêt, il disait, bon, celui-ci, c'est le dernier. Je veux le passer à mon équipe. Et sans arrêt, les joueurs étaient comme, non, reviens, on a confiance en toi pour un prochain. Donc, étaient comme, vous voulez vraiment me faire confiance? D'accord, on va jouer. On joue depuis le début à comment je peux vous surprendre. Et donc, on se ramasse avec un jeu qui a à peu près 2/3 de cinématique pour 1/3 de gameplay.
Mais je pense que Kojima aime surtout beaucoup jouer avec ses fans, peut-être pas de manière particulièrement positive. Je sais pas. J'ai l'impression que il aime pas particulièrement ses fans. Comme il fait des Metal Gear parce que c'est ce qu'il fait. Mais par exemple, même à partir du 2, déjà...
C'est ce que j'avais envie d'embarquer là, sur le 2. Le 2 est un jeu qui déteste son joueur.
Ah ouais.
En fait, c'est un jeu qui est haineux et qui est agressif.
D'une certaine manière, mais je dirais pour le mieux. Ça crée une œuvre réflexive, une vraie œuvre d'art. Là où une œuvre trop consensuelle, ce qui est, à mon avis, souvent le cas dans les jeux vidéo, qui abuse de fanservice, de recyclage facile.
Mais pourtant, Metal Gear regorge de fanservice partout, tout le temps. Et pourtant, ça se balance entre le fanservice vraiment grave et la haine du joueur.
Alors là, vous êtes en train de lancer un pavé énorme, il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs pourquoi.
Bon, on a un début de réflexion avec le personnage de Raiden tout à l'heure où on achète Metal Gear Solid 2 en pensant qu'on va interpréter Solid Snake, mais on interprète le garçon qui aimerait être Solid Snake.
On a vraiment cette évocation.
Donc, on se fait lancer au visage un peu ce qu'on est en tant que joueur.
Mais même plus ou moins, pas aussi explicitement que dans le 4, mais il y a des commentaires sur Raiden que. Il y a pas d'expérience, il s'est jamais battu, mais il y a des centaines d'heures en réalité virtuelle. Oui. Puis il dit, par exemple, je me sens déjà comme un mercenaire légendaire.
Non, mais
je pense que le joueur comme, devrait se sentir un minimum concerné.
Non, c'est ça, il y a ce dédoublement-là qui est absolument génial, où, dans le fond, Kojima nous parle directement toujours grâce au médium du jeu vidéo. Juste avant de passer aux deux, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, j'aimerais quand même dire une chose sur le 4. Il faut quand même dire que le 4 propose une réflexion entièrement sur la question de la liberté et du contrôle. C'est évidemment présent dans toute la série, mais le 4 est vraiment un aboutissement de ces réflexions-là, de ces thématiques, dans la mesure où la plupart des soldats deviennent entièrement automatisés, n'ont plus aucun contrôle. Ça leur enlève énormément de défauts humains, mais ça leur enlève aussi une partie de leur humanité. Il y a ce côté-là. Et nous-mêmes, en tant que joueurs, on est sans arrêt placés devant un sort de tunnel de cinématique où on a très peu de décisions, surtout quand on regarde un peu le côté méta qu'il y avait dans d'autres épisodes de la franchise. Donc il y a quand même ce côté-là de jouer sur le fait qu'on est de plus en plus dans une société où on n'a aucun contrôle, où on fait juste regarder la prolifération d'informations médiatiques visuelles.
Tu veux se donner envie de le faire, c'est quand même grave, je pense.
Je vais le faire.
Okay. Oui, j'avais envie de te poser la question, ça t'a pas donné envie de...
Ouais, là, je pense que j'ai un peu envie de le faire.
Il y a des très grandes qualités, certains défauts inévitablement, mais je crois que la plupart des choix qu'il fait se défendent quand même au final quand tu regardes l'œuvre dans son entier.
Le médium vidéoludé est quand même vraiment puise beaucoup dans ce thème-là, justement, du contrôle et de la liberté, parce que la façon dont c'est fait, le jeu peut nous enlever ou nous donner de la gentilité à tout moment. Fait que nécessairement, c'est vraiment un médium idéal pour aborder ces thématiques-là. Et j'ai l'impression, parce que je connais pas du tout, mais que Metal Gear le fait, mais l'intègre aussi dans toutes les thématiques, justement, des nouvelles technologies, des biotechnologies, du clonage aussi, beaucoup. Donc, il y a comme une espèce d'intersection entre les problématiques du corps et celle de la gentilité et de l'humanité, quelque part entre les deux. Là. Donc,
Il a clairement inspiré des tonnes de jeux à sa suite. Je pense à BioShock.
Aucun doute.
Deus Ex. On parlait tout à l'heure du côté moral, éviter de tuer les gens, ça peut vous rapporter des bonus. BioShock, Deus Ex, c'est totalement basé sur Metal Gear.
Tout à fait.
Deus Ex, il y a même des succès où il faut pas que tu tues les gens pendant tout le jeu et il faut pas que tu fasses repérer par les caméras. Ils ont poussé le vice jusqu'au bout. Pour l'information, j'ai essayé de le faire.
Je sais faire.
Je pense que le mot-clé ici, c'est essayer.
Oui, c'est ça.
Non, mais quand on parle d'héritage, juste quelques jeux qui me viennent en tête aussi. Pour moi, il y a Portal qui joue sur le côté intelligence artificielle et, comme on disait, le côté on suit ce que le jeu nous demande de faire. Finalement, on se rend compte dans Portal qu'on est avec une intelligence artificielle qui veut principalement nous tuer dans des fameux tests. On a aussi Stanley Parable qui joue beaucoup sur cette question-là du méta de pas faire ce que le jeu nous demande de faire et de voir qu'est-ce qui peut arriver dans un jeu qui est entièrement scripté. Mm-hmm. Donc, tu as tout à fait raison, Megan, quand tu dis que c'est ça. Les jeux de Metal Gear n'auraient pas la même portée s'ils étaient faits en film.
Non, nécessairement.
Parce qu'on contrôle pas un personnage.
Il faut le gameplay, ouais, exactement. Ouais.
Mm-hmm. Il y a le côté qui va être très intéressant aussi pour l'entièreté de la série, qui est le côté marionnettiste. Parce qu'il faut le dire, on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à date, mais quand on regarde le jeu dans son entièreté et aussi certains épisodes, on a une révision, une réécriture complète de l'histoire contemporaine après la Deuxième Guerre mondiale. Toute l'histoire qu'on connaît, qu'on a vu dans nos cours d'histoire, est entièrement réécrite avec des sortes de personnes qui sont à la tête des gouvernements, des organisations qui
du
chronie, manipulent...
Là, donc d'histoire alternative.
Ben, même pas, je dirais, tellement uchronie, parce qu'avec les informations qu'on a, il n'y a rien qui est complètement impossible dans l'histoire. C'est évidemment excessivement tiré par les cheveux, mais notamment à la fin, mettons, de Metal Gear Solid 5, on a le générique où on a toute l'histoire de la série avec les dates et on a notamment tous les événements qui sont arrivés dans notre société. Je vais donner un exemple juste pour que ce soit plus clair en montant au 3. Le 3 met en scène, dès le début de la série, la crise des missiles à Cuba. Ce qui est très intéressant, c'est que lors de la négociation, le président Kennedy, on a même des vidéos d'archives en passant de Kennedy durant ces années-là. On a vraiment plusieurs intégrations visuelles qui ancrent encore plus dans le réel ces théories conspirationnistes-là. On a Kennedy qui avait proposé à l'URSS pour qu'ils se retirent, eux-mêmes de se retirer en Turquie. Cela dit, quand historiquement on regarde leur retrait en Turquie, c'était déjà une base obsolète, c'était pas intéressant de se retirer, donc ça aurait pas été la vraie raison pour laquelle ce serait pour laquelle les Russes, l'URSS auraient cédé. C'est parce qu'ils voulaient récupérer parce que Khrushchev voulait récupérer, merci, leur scientifique Sokolov, qui est un ingénieur qui développe des armes. C'est tout ce qu'on sait, et ça aurait été la vraie raison, et c'est comme ça que Metal Gear Solid 3 commence. Le personnage qui n'est pas Solid Snake, qui est de Big Boss, on va en reparler la différence, va essayer d'aller le chercher, parce que c'est un scientifique très important, et juste à voir qu'il a permis la résolution de la crise de Cuba, on comprend qu'il y a une importance stratégique énorme. C'est lui, notamment, qui travaille sur le prototype du premier Metal Gear. Ce serait peut-être bon aussi de définir c'est quoi Metal Gear, étant donné qu'on a
Régis le fait un peu, là, mais...
On a parlé récemment, c'est un lance-missile mobile, qui peut, un lance-missile nucléaire mobile.
C'est la machine ultime, quoi.
Qui joue sur la peur, parce qu'elle peut se déclencher de n'importe où. C'est ce côté-là aussi.
Mais le temps file, puis je pense que Guillaume voulait parler du Metal Gear 2.
On a brièvement abordé la question. Ouais. Moi, ça m'intrigue depuis tantôt. L'aspect publicité commerciale.
Ah oui, oui. Ben, en fait, je voulais vraiment parler du 5, là. On n'en a pas beaucoup parlé. On a beaucoup abordé les autres, là, assez rapidement. Oui. Le 5 joue sur cet aspect commercial, justement, puisque j'ai l'impression que c'est quand même la première fois que Kojima a un peu cédé aux sirènes de la mode, puisque le 5 rentre dans la génération des mondes ouverts, là, qui sont à la mode en ce moment. On va dire semi-ouvert, parce que c'est quand même un peu particulier. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le moment où Kojima a lâché un peu du lest et qu'on se retrouve avec cette créature hybride qui est le 5, qui se passe en monde ouvert, mais pas totalement, et qui pourtant garde encore des moments de génie. Je pense au mode multijoueur que je trouve incroyable, où chaque joueur a sa base, sa mother base, qu'il doit gérer. Et en fait, on peut avoir à la fin un missile nucléaire, on peut avoir l'option d'attaquer les autres bases des joueurs. Et en fait, le seul moyen de déverrouiller la vraie cinématique de fin de Metal Gear Solid 5, c'est que tous les joueurs du monde désarment leur mother base en armes nucléaires. J'ai trouvé que c'était du génie. Bien sûr, personne ne l'a fait. Donc personne n'était censé avoir vu jamais le générique de fin, mais je crois qu'il a leaké récemment à cause d'une erreur
Il a été miné. Donc il est disponible, mais nous sommes indignes de cette fin.
Totalement. Totalement.
C'est clair.
Mais ça, c'est encore une fois, j'ai l'impression qu'on rentre encore dans le côté critique du joueur. C'est-à-dire, ouais. Je vous ai fait une série qui parle de pacifisme, de anti-militarisme un petit peu et tout ça. Et puis vous êtes même pas capable de désarmer nucléairement pour voir la vraie fin d'une série que vous avez adorée pendant tout ce temps. C'est quand même incroyable.
Oui, tu as fait raison, surtout que c'est le message, donc c'est là qu'on devrait être en tant que joueur. Et il y a plusieurs manières de jouer à Metal Gear Solid 5, mais ça peut être un jeu très amusant en termes d'infiltration, en termes dans le fond de jeu un peu sans histoire.
Ah, totalement. Ben, en termes de gameplay, pour moi, c'en est plus approfondi parce que tu peux tellement tout faire. C'est vraiment le monde ouvert rend les choses incroyables. C'est vraiment très très abouti. Moi, je me souviens de cette mission où tu devais éliminer un capitaine dans une base éloignée en Afghanistan. Et en fait, j'ai fait la mission en 2 minutes parce que je me suis mis sur une petite colline. J'ai pris un sniper, il est arrivé, je l'ai tué, je suis parti. J'ai fait OK, ça c'était peut-être pas possible dans les autres. C'est vraiment le monde ouvert qui fait ça.
Oui, bon.
Non, c'est ça. J'essaie juste de voir où attaquer parce qu'il y a.
Moi, je voulais parler un peu du 5 parce qu'on en a pas trop parlé, mais. Je sais pas ce que vous avez à en dire.
Ben c'est le premier Metal Gear moderne où le nom de Kojima apparaît pas sur la couverture, si je ne m'abuse.
Ah, ok, ça je savais pas.
Non, ça ne veut pas marquer.
Ça a été retiré des pamphlets publicitaires et c'est un peu une des.
C'est l'épisode de la crise en fait. Hein.
Exactement, c'est ça. C'est une conséquence de tout ce qui s'est passé à l'intérieur du studio finalement.
Ben, je le dirais aussi très intéressant parce que c'est un peu le chaînon manquant qu'on voulait depuis toujours avoir parce que c'est un peu le centre de l'histoire. Avec Metal Gear Solid 3, on avait l'origine. De la série, je ne l'ai pas dit, il me semble, mais Big Boss, le personnage qu'on incarne, c'est celui qui va devenir le méchant dans les Metal Gear sur MSX.
Ok, donc d'ailleurs, c'est une très bonne question ça. Est-ce que c'est comme Star Wars? Est-ce qu'on peut désordonner l'ordre dans lequel on joue pour suivre le fil chronologique ou est-ce que tu conseilles de faire 1, 2, 3 classiquement?
Je conseille très fortement de tout suivre dans l'ordre parce que c'est vraiment fait pour réécrire l'histoire à chaque fois et disons que.
Dans l'ordre dans lequel c'est sorti, c'est ça tu veux dire?
Exactement. Ben, okay. Ça, mettons Metal Gear 1, 2, 3, ils portent les bons noms pour le troisième est celui qui se passe le plus tôt dans la série. Il se passe en 64, je crois, et c'est le premier épisode historiquement parlant.
Pas dans l'ordre chronologique non, de la trame narrative. Là.
Dans l'ordre qui sont sortis okay. Et dans l'ordre des épisodes. C'est à mon avis la meilleure manière parce que il y a standard d'éclairage. À la limite, on peut jouer assez bien au 3, étant donné que c'est le tout début, sans avoir joué aux autres. On va juste rater beaucoup d'éléments qui sont intéressants, mais le jeu est quand même assez riche en soi pour être abordé. Par contre, si on joue au 2 sans avoir joué au 1, là on va rater entièrement tout ce qui est fait. Parce que est-ce que vous voulez l'aborder?
Ouais, c'est ça.
Je pense que ça vaudrait la peine. Mais c'est une entière reprise volontaire. Du premier épisode. La manière que l'intrigue se passe, il y a ceux qui sont en arrière, qui manipulent les ficelles, essaient de créer des simulations pour recréer systématiquement le soldat parfait. Donc l'idée est de donner à Raiden, qui est le rookie, le soldat inexpérimenté, en recevant les étapes de Big Boss, l'idée que n'importe quel soldat qui passerait à travers cette étape-là deviendrait un soldat ultime. Donc, on repasse systématiquement parmi tout ce qu'on a vu, à la fois d'un point de vue schématique, les lieux sont pratiquement identiques, on repasse par à peu près les mêmes boss, par les mêmes événements. On a, par exemple, la scène de torture avec Revolver Ocelot, qui revient, qui est exactement filmé pareil, et le personnage dit « Hey, j'ai l'impression de déjà vu », en regardant le joueur et en brisant le quatrième mur. Donc, il y a ce genre de sensation-là. Et à la fin, juste avant qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, tout ce complot-là, on a l'intelligence artificielle qui délire complètement. Ça va par du lagement, des grésillements. Elle insiste sur la mission. Elle dit des choses comme je disais tout à l'heure. Bon, t'es juste en train de jouer à un RPG, éteins ta console, la mission est un échec, t'es trop proche de la TV, ça abîme tes yeux, tu peux me faire ton temps, ça parle d'OVNI. Ça parle des citations directes des vieux jeux de la série. T'as vraiment les épisodes de MSX, t'as l'image sur l'écran et des citations textuelles. Et on voit, parce que c'est pas élaboré, c'est des 3-4 mots, parce que c'est à l'époque ce qu'ils pouvaient dire. On a aussi, par exemple, la liste des trains japonais de manière qui apparaît. Des trucs qui font aucun sens quand on n'est pas japonais. Un savoir encyclopédique, des témoignages aléatoires. Et on a presque l'impression qu'on est devant un flux de données qui rappelle Internet. Qu'on peut retrouver absolument tout là-dessus, parce que c'est cette idée-là d'intelligence artificielle qui a accès à tout, et on passe à travers ça dans une sorte de virus qui l'affecte.
Mais c'est la signature finale, le point d'orgue de Metal Gear Solid 2. Et là, je parlais que le jeu méprise son joueur, c'est vraiment ça. C'est que le jeu parle évidemment de la surcharge d'information, puis à quel point, bon, c'est ça. Comment on se sert de cette information-là? Dans le cas de Raiden, on essaie de le former pour devenir quelqu'un d'autre, mais on peut mal se servir de l'information. Et c'est ce que Metal Gear Solid 2, en espèce de grande prévoyance de l'avenir des médias sociaux et tout, nous dit que devant cet influx énorme d'informations, on va pas savoir quoi faire et on va s'en servir de manière médiocre. C'est le message de Metal Gear Solid 2 à son joueur, dans le sens que dans le futur, vous allez échouer à vous servir du futur. Et c'est ce qui est plutôt en train d'arriver, en fait.
Je suis tout à fait d'accord. C'est assez amusant parce que c'est des jeux qui jouent toujours sur la technologie, à travers la technologie, pour nous montrer qu'on n'est pas apte à comprendre la technologie. Parce que du fait, la plupart des joueurs se sont fait berner par le jeu. Et on a juste la sensation qu'un jeu de pourquoi c'est pas ça qu'on a déjà vu? Pourquoi il fait juste nous recycler des maps comme on a déjà vu par le passé? Pourquoi on a à peu près les mêmes boss? Il n'est donc même pas créatif que Kojima tout à coup. Mais finalement, on se rend compte que non, c'est au contraire une réflexivité de plus.
Écoute, c'est risqué pourtant, mais c'est réussi.
Absolument. Cela dit, c'est un épisode qui est quand même divisé un peu en absolu, mais c'est un épisode qui est excessivement réussi quand on l'analyse. Parce que, en plus, toute cette révélation-là arrive dans les peut-être les dernières 20 minutes. On n'est pas encore dans les cinématiques qui durent des heures. Ça arrive à partir du troisième opus.
Mais moi, je dis que la grande leçon à retenir du 2, c'est qu'il faut aller demander aux Illuminati de nous coder une intelligence artificielle si on veut survivre à l'ère post-vérité. Parce que Metal Gear, ça, c'est un des parties que je trouve le plus fascinant. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, mais c'est une fantaisie conspirationniste. Donc, c'est société secrète par-dessus société secrète, par-dessus groupe de gens puissants qui contrôlent le monde avec des intelligences artificielles pour gérer l'information.
Il y a un mélange comique et très sérieux dans Metal Gear qui a toujours été là. Oh, oui, dont la boîte en carton, bien sûr.
C'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, c'est quand même extraordinaire. Et le fameux point d'exclamation, les des effets sonores qui sont des signatures.
C'est devenu un grand classique qui se retrouve. Aussitôt qu'il y a une référence à Metal Gear, c'est toujours la boîte en carton.
Et je précise niveau boîte en carton parce que c'est quand même absolument génial. Durant le moment où il faisait le marketing du jeu sur PSP, j'ai un blanc, pardonnez-moi.
C'est Peace Walker.
Peace Walker, exactement. Le jeu qui jouait à plusieurs, il y avait cette séquence-là absolument géniale où, comme ça jouait à 4, tu avais 4 Big Boss dans leur boîte qui suivaient à la queue-leu-leu et qui arrêtaient tout en même temps. C'était quand même absolument magnifique comme utilisation de cette boîte.
Ouais, il y a une autodérision dans la série qui est assez folle.
Tout
ouais.
à fait.
En fait, ça va de pair avec toute la métadiscursivité du jeu. Là, c'est ça. On peut pas toujours réécrire et réfléchir constamment sans nécessairement rire de soi et de faire de l'ironie. Et c'est comme si le jeu se parodiait lui-même.
Ouais, ben à un moment donné, faut garder en tête que. À un moment donné, dans le jeu, on nous apprend que le président des États-Unis est un clone.
Oui.
Et c'est un super soldat cloné.
Mais je pense qu'il faut pas trop prendre au sérieux ce que le jeu dit sur lui-même parce que c'est vraiment trop, en fait.
Mais c'est l'information au nom de l'information. Parce que c'est ça, le jeu, le scénario au bout de 5 jeux et toutes les dérivées devient une espèce de réseau vraiment complexe à comprendre. Parce que tous les personnages, on change de nom. Pour qu'on puisse être surpris à chaque opus, les personnages se renomment tout le temps. Et ça se transmet dans ce qu'on voit de Death Stranding, le nouveau jeu qui s'en vient bientôt là, de Kojima Productions. Où c'est ça, chaque petit... une nouvelle bande-annonce qui sort et on la décompose là au grain pour savoir tout ce qu'on a parce qu'on sait que Kojima fonctionne,
et
se
Dieu
nourrit à l'information.
Tu sais qu'il y a de l'information.
Non, c'est ça, c'est, il y en a. Ouais.
C'est forcément très chargé. Ce qu'il faut quand même rappeler par contre avec le speech du président qui c'est tout ce qui est vraiment effectivement très drôle. Probablement c'était dans Metal Gear Solid 1, la série évolue quand même en pseudo-sérieux. Ça essaie quand même de plus en plus être crédible. Mais aussi, il y a toujours une finale après-générique, un peu comme dans les films de Marvel aujourd'hui, qui est aussi un côté what the fuck. T'as l'impression souvent que toutes les pièces sont agencées et avec cette conversation-là, on voit pas les personnages, on les entend juste parler, il faut deviner c'est qui. Parfois, c'est pas si évident que ça. Et chaque ce speech-là, on a l'impression qu'il faut entièrement repenser à la série. Juste quand on parle de conspiration, juste dire quelques noms pour ceux qui seraient intéressés à rentrer dans la série. On a les philosophes qui étaient un courant qui ont eu ce qui s'appelait l'héritage, qui a été fondé entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui était un fonds pour la paix, pour éviter par exemple que le nazisme gagne. très simplement. Ce qui a donné lieu au Patriot, qui va se placer sur un contrôle total. Quand vous entendez dans les jeux le la, li, lou, les, lo, que les personnages disent sans arrêt, c'est parce qu'il y a une censure. S'ils essaient de dire le mot les Patriotes, les systèmes, les nanomachines qu'ils ont en eux les empêchent et ça sort comme la, li, les, lo. Donc il y a sans arrêt ce mot-là qu'on a, pendant les premiers épisodes, on se demande de quoi ils sont en train de parler quand il y a sans arrêt ce mot-là qui arrive.
Mais ça c'est typique de la conspiration avec des noms pour cacher d'autres noms.
Oh, c'est ça. Et de l'autre côté, on va avoir Big Boss, le personnage qu'on joue dans le troisième. Et présentement, on ne peut plus jouer avec Big Boss qu'avec Solid Snake, parce qu'il y a énormément de jeux sur le passé avant les premiers Metal Gear. On se ramasse dans la liberté totale qui est représentée par Other Raven, qui va aussi donner lieu à Foxhound, qui est notamment la plupart des soldats passent par ça, qui est une opposition entre une sorte de liberté totale et un contrôle total. Juste très rapidement aussi pour les personnages.
Oh boy!
Oui, c'est juste pour vous montrer à quel point il y a un dédoublement. D'accord? Je ne les expliquerai pas en détail, mais le mentor de Big Boss, qui à l'origine s'appelle Naked Snake, est The Boss. C'est pour ça que lui, qui a passé par elle, va finir par devenir Big Boss.
Ah, parfait, j'ai toujours eu un problème avec Big Boss.
Hein. Ah, c'est ça. C'est très bien. Le premier est The Boss. Ensuite, on a Big Boss. Spoiler majeur qu'on apprend dans Metal Gear Solid 5, si tu veux boucher tes oreilles, Régis Pierre, je sais pas si tu veux l'entendre, on apprend finalement qu'il y a deux Big Boss depuis le début.
J'ai super bien entendu quand
même. Désolé. Naked Snake et Venom Snake. Et ce Big Boss-là a été cloné dans le projet Les Enfants Terribles, dit comme ça,
ouais, ça dans le cinéma français. Encore, hein.
Qui donne... trois nouveaux Snake. Le premier clone, celui qu'on incarne, Solid Snake, qui est le personnage principal dans le début de la série. Liquid, qui est le premier méchant dans Metal Gear Solid 1. Et Solid Snake, le président des États-Unis à la fin du 1, qu'on affronte dans le 2.
C'est superbe.
C'est excessivement mêlant, mais je pense qu'il y a aussi le fait que pour bien comprendre la franchise, puis ça, c'est intrinsèque à la franchise, ce que ouais. Je comprends, c'est qu'il faut en faire l'expérience. C'est que pour bien pouvoir tout assimiler ça, il faut pouvoir avoir joué, il faut pouvoir avoir eu ce dialogue-là entre le jeu, la console, Hideo Kojima,
non, c'est ça.
Qui nous parle à travers le jeu, puis il faut faire l'expérience du jeu.
Oui, parce que c'est peut-être intimidant pour les auditeurs qui ont pas joué, mais c'est quand même donné... Ces informations-là sont généralement données au compte-gouttes, une après l'autre. Au fur et à mesure des jeux qui sont quand même longs à jouer, c'est pas des jeux de 2 heures comme les blockbusters qu'ils essaient d'émuler, ce sont des jeux de 10 heures, 15 heures, même 20 heures. Et le 5 étant un monde ouvert plus long encore. C'est ça. Mais c'est qui crée des intelligences artificielles?
C'est les Patriotes.
Nommés ou selon les présidents,
oh,
je
oui,
pense.
Oui. Mais c'est ça, c'est les Patriotes.
T'as pas envie de nous parler d'intelligence artificielle?
Le problème étant que l'intelligence artificielle, en fait, dans Metal Gear, j'ai l'impression que c'est un peu une espèce de chose vague qui est là, en fait, pour incarner la société secrète dans son plus pur... comme...
C'est les reptiliens.
C'est ça, secrète même à elle-même.
Non, c'est le temps abstrait, ça qui est bien.
C'est plus comme un groupe d'humains qui contrôle... une grande population d'humains, c'est ça va au-delà de ça, c'est il y a plus aucun humain qui est derrière tout ça. Puis ça, on l'apprend au fur et à mesure de la série là, à la fin on découvre que bon, au début on se fait dire il y a 12 personnes dans le groupe qui gèrent tout, puis finalement on apprend qu'ils sont morts puis ils ont été remplacés par des intelligences artificielles.
C'est tout ce qui est plus procédural dans dans les organisations secrètes où on est contrôlé par des machines. Et
Non, c'est ça qui est bien avec la paranoïa, c'est que le fondateur des Patriotes, Major Zero, qui est celui à qui on revient au tout début de la franchise pour bien comprendre, est tellement paranoïaque qu'il a préféré donner le contrôle à l'intelligence artificielle qu'à des humains pour être sûr que ce soit comme intouchable complètement et que ça contrôle absolument tout. On peut imaginer qu'effectivement, que les réseaux sociaux, présentement, ce serait excessivement puissant.
Et on a promis de parler de Psycho Mantis, qui est vraiment une de mes séquences favorites aussi.
C'est vrai, une des plus importantes.
Est-ce qu'on peut l'aborder?
Conclure là-dessus.
Vas-y, vas-y.
Parce qu'on parlait de contrôle et du jeu. Et donc, l'avantage que Metal Gear soit un jeu vidéo et non pas une série de films, c'est effectivement parce que l'interactivité. Qu'est-ce qui fait notre contact avec cette interactivité-là, c'est la manette de jeu. Psycho Mantis est un personnage qui a des pouvoirs psychiques, est un adversaire de Solid Snake dans Metal Gear Solid 1. Et il a la capacité de lire les mouvements de Solid Snake jusqu'à ce que l'on comprenne ou que l'on se fasse expliquer à travers le codec que il ne lit pas nos mouvements, mais littéralement il peut lire notre manette et notre input en tant que joueur.
La forme de la télépathie.
Donc c'est ça, donc c'est, et ça passe pour de la télépathie, et la manière de le vaincre, eh ben c'est de jouer avec une manette branchée dans le deuxième port de la console. En fait, comme ça, il peut pas lire qu'est-ce qu'on fait, parce que là, tout d'un coup, on est... Il disait, moi, j'ai joué à la version PC de Metal Gear Solid 1, parce qu'elle existe.
Ça marche comment?
Et j'avais configuré une manette pour jouer avec ma manette, et je l'ai battu avec mon clavier.
Okay. Ah, c'est bien. Il faut dire aussi que si tu as certaines versions sur GameCube notamment, il va dire à quel jeu te jouer.
Oui, il peut lire la carte mémoire, et si tu as joué à un autre jeu de Konami, il va commenter.
Sur Nintendo, il dit par exemple, hey, je vois que tu as joué à des Zelda. Il demande aussi de mettre la manette sur la table, et grâce à ses pouvoirs télékinésiques, il va la faire vibrer. Grande technologie pour l'époque.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est super intéressant de voir que c'est ça, le bruit du quatrième mur est transporté même à l'extérieur de la console, dans le monde matériel, dans le monde. Puis je sais pas s'ils l'ont pas adapté avec des Kinect et compagnie, mais ça pourrait être très intéressant.
Ouais, mais à l'époque, c'était incroyable. Quoi.
Cette idée-là. Il a toujours été en avant-garde de tout ce qu'il pouvait faire.
Moi, j'ai déjà entendu parler de... Je ne sais pas si c'est vrai, mais la rumeur raconte que lors de Metal Gear 2 sur le MSX, Kojima voulait enduire la cartouche de jeu d'un certain liquide qui réagirait à la chaleur lorsque le jeu est joué pendant assez longtemps. Et là, donc, ça commence à sentir le sang. Lorsque l'on joue à Metal Gear 2 trop longtemps.
C'est génial, c'est aussi génial que de racheter le jeu avec le Game Over.
Ben c'est ça, c'est ça qui arrive. Il y a un coût à tout ça, là.
Bon ben, rapidement, on va terminer là-dessus. Votre Metal Gear, Solid Metal Gear préféré?
Alors moi, ce serait le 1. J'ai quand même bizarrement un coup de cœur pour le 5, qui est un bac à sable assez jouissif en termes de gameplay surtout.
Il est très aimé, de façon générale. Ouais. Là. Mm-hmm. Ça a bien fini la saga.
Toi, Juliane?
Moi, je pense que c'est le 3. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de choses à dire, mais en tant que hommage au genre d'espionnage, c'est savoureux.
André-Philippe?
Metal Gear Solid 2, parce que c'est la première fois que j'ai pensé devenir un peu fou en jouant à un jeu vidéo. C'était très agréable comme sensation. J'étais comme, pourquoi le jeu commence à me parler littéralement?
Ça venait jouer dans ta tête.
Oui, c'est étrange.
Et je vais dire le 2, moi aussi.
Oui, le 2.
Ne serait-ce qu'à cause du mépris du joueur, il n'y a pas assez de jeux qui méprisent les joueurs.
Oui, c'est vrai.
C'est quelque chose que ça prend.
Et c'est vraiment quelque chose, une expérience confrontationnelle là, qui nous fait grandir.
Pour la vraie expérience de mépriser ses joueurs, il faut jouer aux jeux liés sortis dans les dernières années.
Oui, c'est vrai que c'est une expérience authentique, c'est vrai.
Mais Kojima n'a jamais existé.
Ouais, Metal Gear Survive.
Oui,
oh God.
C'est un bel amalgame entre les deux. Bon, mais merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission-là. Donc, je vous dis merci à ceux qui nous ont écoutés, ceux et celles, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop en Stock. De sorte qu'on n'arrive jamais à rien.
quitte